now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Bonsoir à tous. Alors, vous êtes peut-être sur la route, peut-être que vous êtes en train de faire mettre la dinde au four, ou peut-être que vous êtes en train de refaire absolument rien de tout ça. Mais nous sommes le mercredi 24 décembre, vous êtes sur écoute et on est ravis de vous accueillir pour cette spéciale de Noël. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Cyrielle, bonsoir à tous. En effet, aujourd'hui c'est mercredi 24 décembre et le 24 décembre c'est le réveillon, c'est Noël, c'est la fête, le plaisir, la famille, l'amour, la magie, le sapin de Noël.
Tu vas beaucoup trop loin.
Pardon, mais je suis excité puisque aujourd'hui, comme les deux précédents jours de cette semaine et pendant les 15 jours des vacances, on vous propose une spéciale de surécoute, le meilleur de nos sujets depuis le début de l'année.
Tout à fait, oui. Mais une spéciale qu'on a voulu un peu plus tendre, un peu plus douce aujourd'hui parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, c'est la trêve. C'est pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs dans le monde, c'est la trêve. Et donc on s'est dit un peu de douceur, un peu de magie dans ce monde qui est parfois un peu trop brut, Nicolas.
Et oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mercredi 24 décembre, je ne cesserai de vous le répéter, c'est Noël. On vous propose une sélection des meilleurs et tendres sujets de Radio Campus Rennes. De surécoute.
Et on commence tout de suite avec la bande-annonce du projet de la rédaction de surécoute qui nous tient particulièrement à cœur. C'est la bande-annonce d'Henri Potier.
On ne prononce plus son nom. Quiconque tentait de résister était tué. Aucune personne n'a jamais survécu sauf toi. C'est pour ça que tu es célèbre, que tout le monde connaît ton nom. Tu es le Breton qui a survécu.
Je suis un quoi ?
Il ne s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu faisais des crêpes ou quand tu touchais du beurre ?
J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur Le Gonalec.
Bonsoir, professeur Merzine. C'est vrai ce que l'on raconte ?
J'en ai bien peur, professeur. Le bon comme le mauvais.
Salut, je m'appelle Ronan. Enchanté, Henri Potier.
Némosine Meunier, ravie de rencontrer le célèbre Henri Potier.
Bienvenue à Breslau.
Galette ou crêpe, difficile de choisir. Froment mais pas sarrasin. Pourtant, tu as l'étoffe d'un blé noir.
Il n'est pas réel, le ciel.
Je vois un pencouette.
La rédaction de Surécoute présente
Henri Potier.
Tu es un Breton, Henri.
En effet.
Attention, vous êtes sur écoute.
Il s'appelle Sam, il a un talent, c'est celui de conter des histoires. Il nous le présente tout de suite.
Attention, vous êtes sur écoute.
Merci beaucoup Laurie pour le flash info. Et tout de suite, on va enchaîner avec toi, Sam. Donc, comme je disais, hein, Sam, on te connaît parce que tu as ton émission. Donc, les contes d'Albatros. Alors, je me trompe souvent. Je disais souvent les contes de l'Albatros, mais non, c'est les contes d'Albatros.
C'est les contes d'Albatros. Je trouve que la manière dont tu le dis, les contes de l'Albatros, ça sonne très bien, mais c'est trop tard. C'est déjà 7 ou 8 émissions enregistrées, donc ce sera pour la saison prochaine.
Trop tard. Et du coup, donc, c'est tous les mardis de...
Tous les mardis midi à 13h30, entre 13h30 et 14h.
Voilà, et donc toi, en fait, tu racontes un conte durant ces émissions, et la question que je me posais, c'était c'est quoi ton parcours ? Comment on devient conteur, en fait ?
Comment on devient conteur ? Je crois qu'il existe des écoles ou des formations pour devenir conteur, ce que je n'ai pas suivi. Moi, j'ai fait du théâtre depuis tout petit, jusque moins petit, où je suis allé au conservatoire de théâtre. Et autant le conservatoire était intéressant, autant j'ai eu envie de partir un peu de ce côté élitiste que pouvait avoir le théâtre au conservatoire où on vient un peu cracher de la culture sur ceux qui viennent nous voir. Et j'ai voulu essayer différentes formes d'expression artistique. J'ai fait du clown, j'ai fait du théâtre d'improvisation que je fais encore aujourd'hui. Et j'ai fait du conte, un peu sur le tas, par de l'animation que je faisais également, qui était un bon moyen pour endormir les enfants le soir, pour les calmer. Où il y a trois gamins qui pleurent parce que leur maman leur manque sous tente et qu'ils ont froid et que de toute façon leur pyjama est mouillé et que t'as beau essayer d'improviser des berceuses parce que t'en as aucune qui te revient en tête, ça marche pas. Et tu commences par dire « il était une fois » et là tout le monde se tait et c'est magique. Donc c'est un peu ça qui s'est passé et j'ai eu la chance de pouvoir arrivé dans une association qui s'appelle Partout Artiste au moment de sa création. Et j'ai été d'abord en service civique, puis embauché en tant que salarié cette année, en tant qu'animateur socioculturel par le conte et la musique.
Et pour les gens qui ne connaîtraient pas du coup ton émission, mais qui vont bientôt l'écouter, hein, c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu fais du conte traditionnel qu'on connaît? Ou est-ce que tu mixes un peu de tout? Qu'est-ce qui t'inspire en fait?
Alors il y a beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par faire une réécriture du Petit Chaperon Rouge pour adultes en alexandrin.
C'est sympa,
et la semaine suivante, rien à voir, c'était un conte pour enfants en prose tout à fait libre. J'écris pas en vers une demi-heure de vers toutes les semaines, ce serait beaucoup trop de travail. Mais voilà, et après j'ai fait un recueil de contes où chaque émission c'était 4-5 petits contes différents sur l'argent et la possession. Ceux qui ont écouté la nocturne de Surécoute ont pu en entendre un extrait. Et là dernièrement, je viens de terminer la lecture d'un livre, d'une pièce de théâtre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses différentes. L'idée, c'est que c'est une histoire, de moi ou pas dans le cas de la lecture, mais une histoire pendant une demi-heure.
D'accord. Est-ce que vous avez des questions autour de la table?
Quel conservatoire tu as fait?
J'ai fait conservatoire de Rennes et d'accord. Après de Lille.
Ok.
Voilà.
Louis. Et donc, du coup, moi, je me demandais aussi... dans le cadre de, donc tu disais que tu faisais partie d'une association, c'est vrai que le conte finalement ça a c'est que on voit ça que pour les enfants a priori, on imagine que c'est que pour les enfants. Toi tu fais aussi du conte donc pour adultes. Est-ce oui. que c'est tu l'adaptes comment en fait?
Comment je l'adapte pour moi le conte a une visée enfant aujourd'hui parce que on le voit beaucoup comme une animation ou un moyen d'amuser les enfants. C'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment un temps où tout le monde se rassemblait, la famille autour de l'ancien. Au coin du feu ou n'importe quoi, ils nous racontaient les histoires. Et c'était quand on n'avait pas l'écriture et il fallait que toutes les connaissances, toutes les histoires passent par la parole. Et du coup, tout le monde venait écouter du parent au petit. Aujourd'hui, comment j'adapte pour les adultes, peut-être que ça peut plus ressembler à une pièce de théâtre, ce que je présente.
D'accord.
Mais je suis seul en scène et je raconte une histoire, souvent accompagnée de musique. Ma guitare me suit souvent dans les contes, qu'elle soit un outil ou une parole à part entière. Et j'ai fait également des contes... avec mon association Partout Artiste, en maison de retraite, où là, donc, c'est vraiment les adultes, où là, justement, moi, je suis arrivé là-dedans, je me dis quelle légitimité ouais. ou qu'est-ce que j'ai à leur apporter d'intéressant à toutes ces personnes qui ont vu beaucoup de choses, même si elles s'en souviennent pas toujours. c'est pas qu'une blague. J'ai travaillé en accueil de jour pour Alzheimer, et justement, moi, j'arrive. Oui. Et je viens récolter, en fait, leurs souvenirs à eux. Je viens discuter avec eux. Ils me parlent, inévitablement, souvent la guerre revient, mais ils me parlent aussi de ce qu'ils mangeaient à Noël. Ils me parlent en ce moment, quel cadeau ils avaient pu avoir. Et moi, je récolte ces souvenirs. Et ce que j'avais fait, j'avais réécrit une histoire à partir de leurs souvenirs, à partir de leurs anecdotes, en mélangeant leurs souvenirs, les miens, des choses que j'inventais. Et je leur avais présenté à Noël un conte musical à partir de tout ça. Donc, le conte, pour moi, en fait, c'est la parole. J'appelle ça conte, mais pour moi, la parole, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et comme dirait Novecento dans le livre que je viens de terminer de lire... Le mardi midi à 13h30, on n'est pas vraiment foutu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter.
C'est beau.
Oui, c'est très très beau. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Les contes que tu fais, hormis dans l'émission, tu les enregistres? On peut les retrouver
À part dans l'émission, non. Moi, je travaille principalement sur les temps périscolaires dans les écoles, en fait.
D'accord, donc c'est juste oral.
Si vous avez 8 ans et que vous êtes dans les écoles où j'interviens, vous pouvez venir les écouter tous les midis. Sinon, c'est plus compliqué. Les contes pour adultes, j'en fais quelques spectacles de manière occasionnelle dans quelques festivals pour les copains. Sinon, c'est beaucoup pour enfants dans le cadre de mon travail.
T'as déjà testé le festival d'Avignon dans le spectacle de rue, des choses comme ça?
Pas trop.
Ça pourrait être une bonne opportunité.
Ça pourrait. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est un spectacle où je parle tout seul sans micro pendant une heure et je raconte des choses. Il faut une certaine attention. Je l'ai joué dans les bars, ce spectacle-là. Il se joue dans les bars de Rennes ou un peu à l'extérieur.
Et puis... moi, je voulais... Pardon, excuse-moi.
Vas-y. Non, mais surtout, le festival d'Avignon, ça coûte très cher aussi.
Ouais. Ton inspiration, elle vient d'où? Tu la trouves où?
Elle vient de plein de choses différentes. Moi, quand je travaille, souvent, j'associe l'art plastique dans le besoin de mes animations. Moi, je raconte une histoire aux enfants et après, on l'illustre avec de l'art plastique. Moi, c'est l'activité que je propose... Et du coup, par exemple, je sais que j'ai envie de faire de la gravure avec les enfants. De la gravure, du coup, j'essaie de construire une histoire à partir de ça. Sur quoi on pourrait graver? Sur de la pierre. Pourquoi la pierre? Parce qu'on est dans une grotte. Pourquoi on arrive dans la grotte et on ne pourrait pas en sortir? Parce qu'il y a un roi sous la montagne qui nous tient prisonniers et il nous libère que si on grave sur les murs de sa grotte. Et du coup, je décompose comme ça. Et comment est-ce qu'on est arrivé dans les murs de la grotte? Parce que le roi sous la montagne a enlevé les gens du cirque. Et du coup, ça donne le conte Le roi sous la montagne, qui est le deuxième podcast que j'ai enregistré, que vous pouvez réécouter sur la page des contes d'Albatros. Mais c'est ça, des fois je déconstruis, des fois c'est juste une idée, des fois c'est juste une image que j'aime bien. Où je me dis, bah, j'aime bien l'idée qu'une montre arrête le temps. J'aime bien ce truc-là. Alors comment est-ce que je vais faire un conte là-dessus? Ça peut être juste une idée, juste une chanson.
Et du coup, tous tes contes, ils sont prévus entièrement à l'avance ou des fois tu improvises? Est-ce que tu improvises un peu en direct ou comment ça se passe en fait?
À la radio, non. À la radio, ouais. je les prépare. Sinon, ça met très très longtemps parce que dès que je bute sur un mot, j'ai envie de le réenregistrer pour que le podcast soit de bonne qualité. Du coup, je les enregistre le mercredi matin. Et dès que je bute sur un mot, je m'efforce de recommencer la phrase et de couper au montage après. Donc si je ne répète pas un petit peu, c'est beaucoup trop long et je ne m'en sors pas. Avec les enfants, comme j'en fais une quinzaine par semaine, je suis obligé d'improviser un peu. Les contes, je ne les écris pas tous. Des fois, j'en récupère un conte existant sur Internet ou dans des bouquins. Je le réarrange. Je rajoute dans l'histoire du petit chaperon rouge le méchant de tel conte avec les épreuves de tel conte. Et ça donne un conte que je sais à peu près où il va, même si je ne l'ai jamais raconté.
D'accord.
Les contes évoluent du coup au fur et à mesure que tu les racontes?
Ouais, ils évoluent par rapport au premier jet que j'ai. Ouais. Et après, à force de les raconter, je finis par rentrer dans une musique avec des phrases qui se répètent, qui sont toujours les mêmes. Et au bout d'un moment, je sais que le conte évoluera plus beaucoup parce qu'il a atteint une maturité. Enfin, il évoluera pas si je le dis devant le même public.
Oui.
Si je le dis devant mes copains en fin de soirée, évidemment, ce sera pas la même chose. Pas parce que c'est la fin de soirée, parce que c'est mes copains. Mais on peut dire des contes pour enfants, pour adultes, si on donne une deuxième lecture ou...
Un autre concept.
Ou un autre concept, ouais.
Alors, bah, du coup, justement, tu vas nous faire un petit live. Alors, ça sera un live musical, parce que tu as amené ta superbe guitare.
Cuivrée.
Elle est magnifique. Je n'avais encore jamais vu des comme ça, je sais pas vous.
Pas moi non plus.
Elle est vraiment très très belle, donc vas-y.
C'est toi qui l'as construite.
Non, c'est pas moi qui l'ai construite.
Ah non.
C'est un site de musique allemand qui fait des instruments made in China. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est beaucoup moins classe quand on lit, mais elle rouille.
Ah oui.
On va essayer avec les micros, la régie, je vais vous débrouiller pour faire un mixage comme vous pouvez. Bon courage les gars. Ce sera un conte musical pour le coup. Dans un lointain village, perdu on ne sait où, vivait un vieux roi sage et sa fille Lilou. Elle avait 20 ans d'âge et elle rendait fou tout ce que le mariage attirait peu ou prou. Mais autour du village rôdait un loup-garou qui faisait des ravages, du sang aimait le goût. Voici la sombre histoire de la princesse Jeannette qui, de la nuit noire, voulait chasser la bête. Lassée de ses carnages, la princesse Lilou mit son plus beau corsage et ses meilleurs bijoux. Sur la place du village, elle se tint debout et tout le voisinage fut bientôt là et tout. J'épouserai, je gage, qui conviendra tabou de la bête sauvage, oui, il sera mon époux. Voici la triste histoire de la princesse Douillette qui offrit son dortoir contre la méchante bête. Et partout on engage, moyennant quelques sous, de vilains personnages pour attraper le loup. Les chevaliers et pages, tout le monde tente son coup, car ce batifolage vaut tout l'or du Pérou. Dans ce remue-ménage, elle prie de tout son sou pour que son pucelage n'aille pas à un voyou. Voici l'horrible histoire de la princesse coquette qui vient de s'apercevoir que promesse elle regrette. Par une nuit d'orage, un manant, un voyou, un grossier personnage mit la main sur le loup. La princesse dévisage le coquin plein de boue, mais elle n'envisage point d'épouser le filou. Cependant dans sa cage, la bête a le poil doux et il n'y a plus de rage dans ses beaux yeux jaloux. Voici l'heureuse histoire de la princesse trouble faite qui, malgré son devoir, a épousé la bête.
Merci beaucoup Sam.
Ça me fait pas mal penser à un livre sur la véritable histoire des contes. Je sais pas si tu connais un peu. Genre, c'est toute une conceptualisation. En fait, c'est un mec qui... Parce qu'avant, les contes, c'était pas du tout fait pour les enfants. À la base, c'était pour leur apprendre la vie, en fait.
Psychanalyse des contes
de fées. La psychanalyse des contes de fées, voilà. Je cherchais le nom et ça me fait pas mal penser à ça, en fait.
Bah, du coup, c'est ça, moi, dans le Petit Chaperon Rouge, qui est ma version, qui est le premier podcast que j'avais fait en spectacle à l'Arène Théâtre il y a quelques années ici. C'était justement retourner à l'origine du conte du Chaperon Rouge et voir toutes les versions trash et non édulcorées où le loup cuisine la grand-mère, la fait bouffer au Chaperon Rouge et dit déshabille-toi et viens avec moi, quoi. Et conte d'avertissement plus que conte de fées, c'est vraiment cette version-là, moi, que j'ai été chercher pour en faire
c'est
le conte.
C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça direct.
Alors rapidement, Sam, on va dire aussi que du coup, voilà, on t'a vu chanter, tu fais aussi partie d'un groupe.
Ouais. Où les contes, là, je les chante et c'est ça qui tourne plus dans les bars et dans les festivals par rapport aux contes que je fais quand j'ai l'occasion. Le groupe s'appelle Albaricat, A-L-B-A-R-I-C-A-T-E. Et Albaricat, là, vous avez entendu que la moitié de ce que ça pouvait donner, parce que l'autre moitié ne s'entend pas. L'autre moitié, c'est du chant signe, donc du chant en langue des signes. Donc moi, je raconte des histoires avec ma guitare et ma voix, et Clémence, qui est sourde, chante avec la langue des signes les histoires à côté de moi. Donc voilà, la langue des signes, on a tous déjà vu quelqu'un parler avec les mains. La langue des signes, c'est comment est-ce qu'on chante avec les mains, le chant signe. Donc c'est une traduction en langue des signes chorégraphiée, presque dansée. Et donc c'est un concert pour les yeux et les oreilles. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
On aura l'occasion d'en reparler sur Radio Campus et sur Écoute.
Mais si vous voulez voir ce que ça peut donner, on est sur Facebook, Albaricat, et on a un concert à Rennes le samedi 10 janvier à l'avant-scène à 21h.
Parfait. De toute façon, on mettra tous les liens Facebook et des sites sur le podcast de Surécoute. Merci beaucoup, Sam.
Un plaisir.
C'était génial de t'avoir avec nous. Et tout de suite, on va repartir en musique un peu différent avec Iron and Wine, Grass Widows sur Radio Campus Rennes. Snake within the weeds, lady, chilled along across a flat back street, like we finally saw the colors of the world.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et maintenant, on va retourner sur une chronique que tu avais faite dans un surécoute spécial, Nicolas.
Oui, donc on avait l'habitude, c'était une espèce de rendez-vous comme ça mensuel qu'on s'était imposé. C'était chaque mois essayer de faire une émission un peu spéciale la nuit.
C'est ça, donc de 21h à 2h du matin, sans compter les retards.
Voilà, donc généralement de 21h jusqu'à 4h du matin.
C'est ça.
On se donnait rendez-vous la nuit comme ça, on faisait une émission un peu spéciale où on partait dans tous les sens tout en étant canalisé, mais... avec beaucoup d'énergie, c'était une très très bonne expérience au passage.
Et qui reviendra dès janvier, hein. On vous abandonne pas, on abandonne pas l'idée. Et donc durant la première émission nocturne, toi tu nous avais raconté l'histoire de Walt Disney dans une manière un peu contée finalement.
Oui, donc j'avais voulu vous conter les premiers moments de Walter Elias Disney, de son vrai nom. Je vous laisse écouter ça.
Attention, vous êtes sur écoute.
New York, février 1928. Les rues ne sont pas assez larges dans certaines parties de la ville. Les automobiles occupent toute la place. Les rumeurs disent ici et là que le puissant Jimmy Walker a la main mise sur les infrastructures. Depuis quelques mois, on a stoppé la production des célèbres Ford T. Mais cela ne change rien, car l'homme a fini par changer ses habitudes, changer son rapport aux distances et au temps. Ils se synchronisent, les uns aux autres désormais liés. L'industrie de l'automobile a fini par s'imposer sur celle du train. Le monde se met à bouger. C'est bien ce que l'on peut dire de cette île, l'île de Manhattan, bouillante le jour, scintillante la nuit. Il y a toujours du monde sur ces terres, de Brooklyn jusqu'aux portes d'Harlem. On y croise d'ailleurs tout le monde. Au croisement de la 5e avenue et de la 58e, un jeune couple américain marche le long du trottoir. Confiants, ils savent leur destin entre leurs mains et leur avenir bien heureux. Elle se prénomme Lillian Bones. Elle avait rencontré l'homme de sa vie, et elle était à l'époque sa secrétaire, et lui un patron bien respectable. Et un jour, il décida de l'épouser. Voilà pourquoi Lillian Bones marche heureuse avec son mari dans une rue de New York. Lui, on l'appelle Walter. Ambitieux, Walter a un rendez-vous.
Entrez, Walt.
Walter entre dans le bureau de Mintz. Lillian attend dehors, assise sur l'une de ses deux chaises, en face du bureau de la secrétaire. Elle sait que ce rendez-vous est important pour Walter. Sous le regard hautain de la secrétaire de Mintz, Lillian se met à l'aise. Car ce jeune couple de la côte ouest a l'habitude des rendez-vous d'affaires moins guindés. Walter n'aime pas vraiment Mintz. Mais il a dû accepter de travailler avec lui. Sa femme, Margaret Winkler, est la productrice de leur programme. Un programme révolutionnaire. Tout a commencé avec Alice Wonderland. L'histoire, sur quelques minutes, d'une jeune fille transportée dans un univers irréel. Pour la première fois sur les écrans de cinéma, dans les courts-métrages qui passaient habituellement avant le film, les spectateurs découvraient un mélange de prises réelles et de dessins animés. Walter se laissa vite de la série désormais populaire des Alice Comedies. Avec Mintz, ils décidèrent de produire une nouvelle série de courts-métrages, de créer une histoire et de captiver le public. Du désir de Walter de pousser la technique du dessin animé encore plus loin, naquit Oswald, The Lucky Rabbit. Mais Charles Mintz a doublé Walter. Dans le contrat, Walter a laissé à Mintz les droits d'Oswald. Du lapin prometteur au dessinateur du studio, Walter a tout perdu. Seuls son fidèle ami, Hub Iwerks, et son frère Roy l'attendent en Californie.
To Los Angeles, California, the city of angels.
Arrivé à Los Angeles, Walter et Lillian regagnent les collines de Hollywood. Démoralisé, Walter ne travaille plus. Il n'a plus le contrôle sur Oswald, son personnage, son œuvre. Lui, le perfectionniste, le maniaque. Son frère Roy et sa femme font tout leur possible pour lui redonner le goût de l'animation. Walter demande alors à son ami Hub Iwerks de retravailler un personnage. Le dessinateur reprend les traits de Oswald, arrondit les oreilles du lapin. Son nez devient espiègle et ses joues chaleureuses. Sur l'idée de sa femme, il nomme ce nouveau personnage Mickey Mouse. Le studio est reconstitué. Les animateurs et scénaristes s'activent à donner vie à Mickey. Rapidement, sort des studios de Walt, Steamboat Willie, le premier dessin animé parlant de l'histoire.
Delighted by Walt Disney's new creation, Steamboat Willie. It's funny, it's cheerful, and Mickey Mouse is a lovely character. You might want to keep an eye on Mr. Disney, folks. It won't be long until he plays with the big kids.
Attention, vous êtes sur écoute.
La fameuse Last Christmas, reprise par Jimmy, Eat the World.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et enfin, on a un petit zé tout à l'heure. On vous a fait écouter la bande-annonce, mais là, on va terminer avec la grosse création de l'équipe de Surécoute. Nicolas, Henri Potier, qu'est-ce que c'est ?
Henri Potier, à la base, c'est une adaptation plus ou moins fidèle du célèbre sorcier britannique Harry Potter.
Harry Potter.
Voilà, et non Potier, j'en finis par m'embrouiller. Et donc, Harry Potter, c'est le célèbre sorcier britannique, et nous, on a décidé de le transvaser, je sais pas si ça peut se dire.
Ouais,
on l'a adapté.
On l'a adapté à la contrée bretonne et puis bah, ça a commencé autour d'un café, à la machine à café, à la fac de Rennes 2. Et
ça finit par une aventure assez extraordinaire. Ça s'intitule Henri Potier à l'école de Breslard et c'est tout de suite sur Surécoute.
Attention, vous êtes sur écoute.
Excusez-moi, mais qui êtes-vous ?
Breston Tourtan, gardien des clés et des lieux à Breslard. Tu sais déjà tout sur Breslard, n'est-ce pas ?
Désolé, non.
Non, mais tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ?
Tout ça quoi ?
Tu es un breton, Henri.
Je suis un quoi ?
Un breton, et tu seras un sacré bon breton quand tu te seras un peu entraîné.
Non, non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un breton. C'est vrai, je suis Henri, juste Henri.
Eh bien, juste Henri, il ne s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu faisais des crêpes ou quand tu touchais du beurre ? Ça va, Henri ? Tu es bien silencieux.
Celui qui m'a laissé cette cicatrice, il a tué mes parents, n'est-ce pas ? Vous le savez, Tourtan, j'en suis sûr.
D'abord, sache une chose, Henri, c'est important. Certains sorciers tournent mal. Il y a quelques années, un sorcier a mal tourné, très mal tourné. Un sorcier terrible qui voulait éliminer tous les beurs doux.
Les beurs doux ?
Les hommes et les femmes sans pouvoir, ceux dont la magie bretonne ne coule pas dans leurs veines. Celui dont même les bretons n'osent traduire le nom, vous voulez.
Celui dont même quoi ?
On ne prononce plus son nom. Il porte malheur. Oui, ce nom terrible, Mordred.
Mordred ?
Chut ! C'était une sombre époque, Henri. Une très sombre époque. Mordred rassemblait des adeptes dans toute la terre de Braise. Quiconque tentait de résister était tué. Tes parents étaient de ceux-là. Aucune personne n'a jamais survécu, sauf toi.
Moi ? Mordred a essayé de me tuer ?
Oui. Ce n'est pas une cicatrice ordinaire que tu as sous ton œil droit. Cette cicatrice, en forme de queue d'hermine, est la marque d'un sort terrible qu'il a lancé contre toi.
Qu'est-ce qui est arrivé à celui dont même les Bretons n'osent traduire le nom ?
Eh bien, on dit qu'il est mort. Mais moi, je pense qu'il est toujours vivant, mais trop faible pour continuer. Henri, une chose est sûre. Quelque chose en toi l'a réduit à néant cette nuit-là. C'est pour ça que tu es célèbre, que tout le monde connaît ton nom. Tu es le Breton qui a survécu.
Cher Monsieur Potier, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Breslard, l'école de sorcellerie celtique.
La rédaction de Surécoute présente Henri Potier à l'école des sorciers celtes. Il était une fois, aux portes de la Bretagne, une commune à nul autre pareille. Roison, capitale de la magie celtique, dans laquelle je m'en vais vous conter l'histoire d'Henri Potier. Un train L'empreinte élancée à pleine vitesse se frayait un chemin dans l'obscurité. La brume accompagnait le convoi et masquait l'intégralité du train dans un épais nuage. Il était difficile d'apercevoir les passagers et seules les faibles lumières des phares pouvaient annoncer l'arrivée du Breslar Express. Pendant ce temps sur le quai d'arrivée, alors que les derniers passagers quittaient la gare, un goéland vint se poser sur le panneau d'information du quai demi-pinte. Il resta ainsi, posé sur l'affichage, immobile comme une statue, guettant de ses grands yeux ouverts l'arrivée du train. Impassible, il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'un cheminot inspecta le quai avant la fermeture pour les Beurdoux. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un vieil homme apparut en bas des escaliers mécaniques. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. Le goéland prit son envol, fit demi-tour et se posa quelques mètres devant le vieil homme.
« J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur Le Gonalec. »
Bonsoir, professeur Merzin. C'est vrai ce que l'on raconte ?
Dame, j'en ai bien peur, professeur. Le bon comme le mauvais.
Et l'enfant ? Vous pensez qu'il est sage de l'accueillir à Breslar ?
Ce jeune homme est inscrit dans notre école depuis sa naissance. Et malgré sa timidité et son amour probable du beurre sans sel, il est en âge d'apprendre la sorcellerie.
Arriva enfin le Breslar Express. La fumée qui s'échappait de la locomotive rouge envahit le quai. Et c'est dans cette épaisse brume que le professeur Merzin et Le Gonalec disparurent.
Ce retard n'aurait jamais eu lieu entre un Lorient-Bresque-Imperlé.
Savez-vous que la liaison du Breslar Express avait été fondée par Monseigneur Folleuil ?
Moi, je n'avais jamais pris le train.
Il est vrai que les pauvres ne prennent pas souvent le train. Tu dois sans doute être un Beurdoux.
Pioué, celui-là !
Les premières années avaient été regroupées sur le parvis de la gare. Ils contournèrent le chantier de la future ligne B, puis regagnèrent l'avenue Janvier. Devant eux, une quinzaine de charrettes.
Des charrettes au milieu de la rue ?
Grâce au sort de Chouchen, les Beurdoux ne voient pas les charrettes. Ils ne perçoivent que des clients en mauvais état.
Henri monta dans une des charrettes.
Salut, je m'appelle Ronan. Enchanté, Henri Potier.
Tu es Henri Potier ?
Oui.
J'en reviens pas, Henri Potier dans ma charrette. Gast ! J'ai hâte de voir la tête de mes frères quand ils vont la prendre.
Et toi, tu connais bien Breslar ?
Némosine Meunier, ravie de rencontrer le célèbre Henri Potier. Breslar est la plus grande école de sorcellerie celtique. Les grands noms de la magie ont étudié ici. Chaque sorcier de Britannie reçoit une lettre d'admission lors de son 18e anniversaire. C'est comme ça depuis des siècles. C'est écrit dans les contes d'Alban Armoriac.
J'imagine que c'est aussi votre première année.
Oui, même si j'ai déjà deux de mes frères qui sont en deuxième année.
Moi, je suis la première à être acceptée à Breslar. Je suis d'ailleurs la seule sorcière de ma famille.
Les calèches arrivèrent au bout de l'avenue Janvier, devant le pont Sainte-Anne. De l'autre côté du fleuve, perché derrière un jardin, une immense demeure percée d'arcades étincelait de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Breslar. Les étudiants avaient traversé le jardin Saint-Georges. Ils se dirigeaient à présent au premier étage vers la grande salle. Mais, sur le chemin, le professeur Le Gonalec les attendait.
Bienvenue à Breslar. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres dans la grande salle. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Finistor, Vilenia, Armoriac et Morbihar. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, nous allons rejoindre le reste de l'école.
n'est pas réel, le ciel. C'est un plafond magique qui fait croire à un ciel ombragé et pluvieux. Je l'ai lu dans l'histoire de Breslard.
Veuillez attendre devant l'estrade, s'il vous plaît. Bien. Avant de commencer la cérémonie de répartition, le professeur Merzine souhaiterait vous dire quelques mots.
La loi m'oblige à vous rappeler quelques points du règlement intérieur. Il est formellement interdit de... la forêt. Par ailleurs, notre concierge, la Gégado, m'a demandé de vous rappeler que... de la mort. Merci.
Nous allons à présent commencer la répartition. Je vais placer la bigou coiffe sur votre tête et vous saurez à quelle maison vous appartenez. Némosine Meunier.
Ok, pas de panique Némosine, c'est le jour le plus important de ta vie, mais pas de panique.
Némosine Meunier monta sur l'estrade et se posa sur le tabouret. Madame Le Gonalec reposa alors la bigou coiffe sur la tête de la jeune étudiante.
Ah, je vois. D'accord. En effet. Finistère.
Pendrek Malfos.
Sans hésitation. Morbillard. Ouais.
Ronan Le Goff.
Encore un Goff ? Dame, ce n'est plus une famille, mais une colonie. Le choix semble évident. Finistère.
Henri Potier.
Ah, Henri Potier, le vrai.
Est-ce que Henri Potier,
tu penses que c'est vrai? Je sais pas, je suis fait une permanente entière.
Galette ou crêpe? Difficile de choisir.
Tout sauf Morbillard. Tout sauf Morbillard.
Non, je vois. Tout sauf Morbillard. Froment, mais pas sarrasin. Pourtant, tu as l'étoffe d'un blé noir.
Tout sauf Morbillard.
Silence, Pencouette. Finistère.
La répartition se prolongea jusqu'à ce que le dernier apprenti sorcier ait posé son crâne sous l'illustre bigou coiffe. Après un fastueux banquet, les élèves de Breslard gagnèrent leurs dortoirs respectifs. Sur le chemin, Henri Potier s'exclama.
Vous n'avez pas vu Némosine ?
Nemo qui ?
Ronan, elle était avec nous dans la charrette.
Ah oui, celle qui parle tout le temps !
Se rendant compte de l'absence de Némosine Meunier, Henri et Ronan se précipitèrent dans le bureau de Madame Le Gonalec.
Madame, Némosine a disparu.
Nous sommes déjà au courant, les enfants. Nous avons reçu cette lettre par Cormoran il y a à peine une heure.
Une lettre ? De qui ?
Une lettre de celui dont même les Bretons n'osent traduire le nom.
Nous devons sauver Némosine !
Mais c'est bien trop dangereux, Henri !
Il nous faut quelqu'un de perspicace, d'excentrique, mais efficace.
Henri, la Gigado connaît forcément une personne comme ça.
Il y a bien ce jeune sorcier en ville. Avec son acolyte, ils résolvent les enquêtes les plus troublantes et les mystères les plus mystérieux. C'est marrant, ils habitent ensemble. Mais bon, tout le monde a le droit à ses galettes saucisses. Son adresse, 221B, rue des Boulangers.
Next time, don't miss the new episode of Henri Potier on Radio Campus Rennes.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et donc là, on vient d'écouter le premier épisode d'Henri Potier, Nicolas.
Oui, tout à fait, Cyrielle. Et avec nous, on a le plaisir de recevoir en ce réveillon du 24 décembre, Julien et Axel qui vont nous parler de ce soir, la spéciale Noël de Surécoute.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voilà, on vous a préparé un conte pour ce réveillon. Et il y aura entre autres le billet doux d'Antoine, mon baladeur. Il y aura également Je cherche dans mes fiches,
oui.
Je suis tout perdu. Alors. Il y aura les prédictions de Laurie.
Pour
le
2015.
Conte pour 2015. Henri Potier, deuxième tome.
Voilà, bah justement, Henri Potier, qu'on a tous tourné ensemble. Toi, Axel, t'en as fait partie. Tu nous dis un peu avec quel autre univers Henri Potier va se mélanger ?
Bah, ça va être un crossover avec Sherlock Holmes.
Voilà
un peu l'univers.
Donc on retrouve ta voix, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et tu peux nous parler un peu de cette expérience ? Comment ça s'est déroulé ? comment t'as recruté ? Comment s'est passé les castings,
sur
le tournage ?
Vraiment sur le physique, ouais. On m'a voilà. Hein ?
Et puis, écoute,
oui, pour la radio, on sentait que ça pouvait très bien passer.
Voilà.
Et donc, Julien, donc,
oui, et puis pour finir, Arthur et Cyril viendront également nous faire leur compte à eux pour tenter de redonner l'esprit de Noël au Père Noël.
Ça, c'est génial. Et bah, donc, on retrouvera ça sur les ondes de Radio Campus Rennes donc, dans le courant de la soirée du 24. On ne sait pas encore précisément à quelle heure.
Non, malheureusement, on ne peut pas vous donner une heure précise, mais restez sur les ondes de Radio Campus. C'est ce soir, en tout cas, la spéciale Noël de Surécoute.
Allez, on vous remercie tous. Et puis bah,
joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Très bon réveillon à tous.
Et au à voir. Demain. Ouais. Salut. Salut. Au revoir.
Salut.
I know a bloke who knows a bloke who knows a bloke. Now you know this bloke. This is a bloke you know.